Bienvenue sur le podcast Balance ton héroïne. Je suis Géraldine Jakowski et je vous accueille aujourd'hui pour un épisode spécial puisqu'il a été enregistré en collaboration avec Andrea Dican du podcast Catalyseur engagé des transformations. Et ensemble, nous avons le plaisir d'accueillir une figure emblématique du monde entrepreneurial et de l'innovation en la personne de Koussé Vanek. Koussé a un parcours inspirant. Elle est née à Moscou d'un père tchadien et d'une mère russo-ukrainienne. Avant de rejoindre la France en 1990 à la suite d'un coup d'État. Diplômée de l'ESCP Business School, sa carrière débute dans un premier temps chez Danone. Puis elle va avoir aussi une expérience significative chez Pernod Ricard. Durant une décennie, Koussé a brillé par sa capacité à diriger et à insuffler une culture entrepreneuriale au sein d'entreprises notables, telles que Comexposium, où elle a piloté une filiale spécialisée dans les événements, e-commerce et cybersécurité, ainsi que chez Webhelp, reconnu comme un leader mondial de l'expérience client externalisée. Entrepreneuse dans l'âme, Koussé n'a pas hésité à rejoindre l'aventure des startups. Elle a créé et dirigé Solutions Apart pendant 3 ans, une startup innovante facilitant la connexion entre particuliers et architectes d'intérieur grâce à une plateforme web. C'est en janvier 2022 qu'elle rejoint Eura Technologies à Lille, l'un des incubateurs et accélérateurs de startups leader en Europe en tant que COO. Sa vision et son leadership ont rapidement été reconnus, ce qui l'a amené à prendre la présidence du directoire en octobre 2022. Avec une telle trajectoire, Koussé incarne la passion, l'innovation et le succès. Elle est une source d'inspiration pour toutes celles et ceux qui aspirent à transformer leurs idées en réalité impactante. On démarre l'interview.
Bonjour Koussé, nous sommes ravis de te retrouver aujourd'hui à ResLab.
Bonjour.
Bonjour Koussé, bienvenue à Paris et bienvenue à ResLab sur cet espace de coworking que vous connaissez bien, les coworking, mais qui comprend un studio d'enregistrement. Donc bienvenue chez nous.
Merci beaucoup, je suis ravie.
Bon, nous allons passer quelques moments ensemble et c'est vraiment une joie de pouvoir parler de ton parcours, partager ton parcours et puis tout ce que tu fais aujourd'hui avec Eura Technologies. Donc, nous allons commencer tout de suite. Alors, la première question, c'est de comprendre un peu le fil conducteur, s'il y en a un, bien entendu, de ton parcours.
Oui, donc moi, j'ai fait une école de commerce, l'ESCP, et ensuite, j'ai travaillé 9 ans dans des grands groupes en marketing. Donc, j'ai travaillé chez Danone, puis Pernod Ricard. Et ensuite, donc, j'ai lancé une start-up. Donc, j'ai été entrepreneur et donc, j'ai été à la place des entrepreneurs qu'on accompagne aujourd'hui chez Eura Technologies. Donc, ça m'aide beaucoup dans mon parcours. Et c'est vrai qu'après après cette expérience d'entrepreneuriat, j'ai bossé vraiment dans des boîtes avec un fort esprit entrepreneurial. Donc, j'ai travaillé chez Webhelp, qui est un leader de l'expérience client externalisée. Et donc là, vraiment, j'ai vécu l'aventure d'une scale-up, puisque en tant que directrice marketing, sur 6 ans, on est passé de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires à 1 milliard. Donc vraiment, c'est une aventure exponentielle. Et ensuite, donc juste avant de rejoindre Eura Technologies, je dirigeais tous les événements tech et cybersécurité de Comexposium, qui est le numéro 3 mondial de l'événementiel. Et donc, c'était vraiment l'animation d'écosystèmes, le fait de créer des opportunités de business et d'épanouissement personnel comme professionnel pour des professionnels.
Très bien.
Bravo et merci en tout cas de nous dire cela. Moi, ce que j'entends, c'est qu'une direction marketing est aussi, ou communication est aussi accélérateur dans une entreprise, notamment chez Webhelp. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que vous ayez cette fibre entrepreneuriale. Donc, vous connaissez les besoins des startups que vous accompagnez. Vous pouvez mieux les comprendre et mieux les accompagner au travers de cela.
Oui, ça veut dire que Euratechnologie, en fait, on fête nos 15 ans cette année. Donc, c'est un incubateur accélérateur de start-up. On accompagne 200, voilà, porteurs de projets chaque année. Et donc, Euratechnologie ne m'a pas attendu sur cet aspect-là. Mais c'est vrai que, nous, ce qu'on cherche à créer pour les entrepreneurs, c'est vraiment un écosystème qui soit propice. Donc, parce que, voilà, vivre l'aventure de l'entrepreneuriat, c'est aussi vivre des montagnes russes. Parfois, okay. Ça va très bien. Parfois, ça va vraiment moins bien. Et donc, nous, on est là pour créer plein de liens business, les aider, des opportunités de briller. Mais on doit aussi être là sur un aspect plus humain. Et parfois, quand ça va pas, quand une levée de fonds, elle prend 18 mois au lieu d'en prendre 9, voilà, c'est aussi à un moment être sympa dans les couloirs et dire si, ça va aller, comment est-ce que je peux t'aider? Et voilà. Donc, je pense que avoir cet état d'esprit-là, je pense qu'on le partage avec toute l'équipe.
D'accord. Donc, effectivement, un écosystème où il y a de l'entraide, où aussi il y a cet esprit, finalement, de famille à Euratechnology.
Je pense, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos accompagnements, ils sont gratuits. Ça veut dire que cette partie, quand on est porteur de projet et qu'on est sélectionné pour être accompagné, voilà, on accède à un espace de travail, on accède à des keynotes, à des ateliers, à de l'apprentissage pair à pair. Donc, tout cet accompagnement-là, effectivement, il est gratuit, mais on a aussi des entrepreneurs qui sont dans plusieurs incubateurs. Donc, par exemple, qui sont à la fois chez nous, chez Partech à Paris. Est-ce qu'ils retiennent, est-ce qu'ils nous disent à chaque fois sur qu'est-ce qui fait la différence chez nous? C'est vraiment que effectivement, on est dans une communauté très soudée, et donc c'est ça qu'on arrive à mettre en œuvre. Parce que aussi notre force, c'est que on est sur 5 sites avec des entrepreneurs qui, une fois qu'ils ont réussi leur start-up, finalement, ils prennent des locaux à côté, ils s'implantent. Et donc, quand on est un nouveau porteur de projet, quand on prend un café, on rencontre quelqu'un qui a déjà 10, 15 ans de vie de sa boîte. Et donc, cette partie-là, c'est cette entraide. Et quand, reprenons l'exemple de la personne qui est en train de vraiment souffrir sur sa levée de fonds, il y a toujours quelqu'un quand même aussi pour s'asseoir avec lui et dire, comment je peux t'aider? Tout ça, je pense que c'est vraiment une vraie particularité. Tous les écosystèmes n'en bénéficient pas.
Tout à fait. Et donc, parlons de levée de fonds. Donc, il y a 2 ans, il me semble, où Euratechnologie a fait une belle levée de fonds, à peu près 24 millions. Et donc, aujourd'hui, suite à cela, tu as été nommé pour accompagner la mise en œuvre de ce grand, grand projet. Je voulais comprendre aujourd'hui comment est-ce que ça se matérialise pour toi et en termes de ligne aussi d'engagement et puis de projet d'ambition d'accompagnement d'Euratechnologie.
Oui, effectivement, cette levée de fonds, c'était exceptionnel, 24 millions, c'est exceptionnel dans l'univers des écosystèmes de start-up, que ce soit l'incubateur qui lève et pas seulement les start-up. Et en fait, c'est une nouvelle roadmap pour nous. Ça veut dire qu'au départ, cet incubateur est né d'une volonté d'acteurs publics. Et donc là, cette levée de fonds, c'est à la fois les acteurs publics qui nous refont confiance, mais c'est aussi 40% du coup du capital qui devient privé avec l'arrivée, par exemple, de l'AFM, donc c'est-à-dire toutes les enseignes Mulier comme Decathlon, Auchan, aussi le MEDEF local. Donc en fait, c'est vraiment tout, c'est le fait de compléter en fait, finalement, notre accès à l'écosystème avec le lien vers le public comme le privé qui fait notre caractéristique. Moi, j'étais déjà au sein d'Euratechnologie et donc j'ai pris la présidence du directoire en octobre 2022 et finalement pile poil au moment de vraiment tracer cette nouvelle route. Et en fait, j'ai envie de dire que les deux grands accomplissements, j'ai envie de dire. La première, c'est vraiment l'émergence du campus cyber territorial. Ça veut dire que aujourd'hui, il y a un campus cyber national qui existe à Paris. Le campus cyber Hauts-de-France Lille Métropole, c'est le premier campus régional dédié à la cybersécurité qui a été labellisé. Et en fait, c'est un projet que nous, Euratechnologie, on a porté pour un projet qui est en train de s'autonomiser et qui vraiment fédère acteurs publics et privés. On a pu faire l'acquisition d'un équipement de pointe, la CyberEdge, qui permet de simuler des univers pour des attaques, de monter en compétence des équipes cyber. On accompagne 15 startups cyber, donc c'est un pôle d'innovation, un pôle de mobilisation, un pôle d'opération. Et donc, on est très fiers que cette augmentation de capital, elle ait permis de créer un projet aussi ambitieux. Et puis ensuite, sur notre accompagnement, sur notre cœur de métier qui est l'accompagnement de start-up, ça nous a permis d'étoffer notre équipe. Donc aujourd'hui, nous sommes 60 vraiment dans cette équipe, au cœur d'un grand écosystème. Et déjà, ça nous a permis d'avoir une équipe plus solide et de venir se renforcer sur, en particulier, l'accompagnement à la levée de fonds et l'international, c'est-à-dire être capable à la fois de toujours plus attirer des startups internationales vers Aura Technologies. Et donc, on en a un tiers de celles qu'on accompagne sont aujourd'hui internationales. Et puis aussi, permettre à nos startups de plus facilement exporter, aller à l'international.
Très bien. Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la feuille de route est en bonne marche? Parce que il y a le classement qui est sorti, où Aura Technologies est l'une des plus belles, des plus beaux incubateurs d'Europe. Donc, je ne sais pas si tu peux nous en dire un petit mot au niveau de votre satisfaction.
Oui, effectivement, le Financial Times a fait un classement la semaine dernière qui nous classe premier hub de start-up en France et 30e en Europe.
Génial.
Donc, c'était une très grande fierté pour les équipes. Et puis finalement, aussi une très grande fierté pour les différents acteurs qui ont fait les 15 ans de cet incubateur. Donc effectivement, c'est une belle récompense. Et puis après, il faut se rendre compte que nous, c'est aussi, on est surtout fiers du succès de nos startups. Ça veut dire que quand elles arrivent à faire, à s'étendre, par exemple là, dans les échos ce matin, on parlait de Nishta, qui est une solution d'anonymisation des données. Nishta, on est sûr que ça va être, si ce n'est une licorne, un immense succès. Et voilà, c'est ce type de choses qui nourrissent l'équipe au quotidien. Et c'est vraiment notre but. Ça veut dire, c'est faire émerger des champions tech européens avec un impact positif en termes d'emploi, en termes de durabilité. Donc, c'est vraiment ce qui nous motive.
En tout cas, bravo à vous et à vos équipes, à toutes vos équipes.
Là, c'est vraiment... je veux dire, quand on a vu ça avec Andrea, on était très fiers aussi de vous recevoir aujourd'hui. Alors, vous, comment vous vous êtes fait votre place? Comment vous avez intégré votre place de leader, en matière aussi de leadership, au sein de cette équipe? Comment ça s'est passé?
Alors, je pense que la légitimité, elle doit se gagner chaque jour. Donc, effectivement, je pense qu'il y a, en fait, j'avais plusieurs sujets qui étaient la confiance des actionnaires, qui était la confiance de l'équipe et puis la confiance des entrepreneurs. Donc, il y a vraiment ces trois dimensions-là qu'il fallait travailler. Et je pense que un de mes points de vigilance a été vraiment la communication. Ça veut dire que les résultats, ils arrivent quand même plus tard. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on vous laisse le temps des résultats.
Travailler.
Et donc aujourd'hui, voilà, les résultats, je les ai parce que, on a fini un exercice. J'ai amélioré la marge de 50%. Le chiffre d'affaires, il a cru de 13%. Donc, les résultats, c'est ça. Un an plus tard. Le classement, c'est maintenant, mais c'est aussi la récompense de 15 années d'efforts. Mais en attendant d'avoir les résultats, la construction de l'équipe, on a eu plein d'étapes. C'est-à-dire que on a travaillé en groupe notre vision, travaillé en collectif les étapes. Beaucoup de communication, que ce soit en interne avec les actionnaires, avec les entrepreneurs, et puis aussi finalement beaucoup de temps de proximité, parce que ce lien, la confiance, elle met du temps à se construire, et à un moment ça passe aussi par de la présence et que les gens comprennent la sincérité. Ça veut dire que je pense qu'en particulier dans le cas de la technologie, je vous ai parlé de ce côté très enveloppant et très écosystémique. Et donc, je pense que il a fallu qu'ils comprennent ma sincérité pour ce poste et pour là où je voulais emmener le projet.
C'est important ça. Mais il y a eu plusieurs mots-clés qui ont été dits, sincérité, aussi investissement en termes de temps, de présence auprès des équipes, auprès des startups, de disponibilité pour les investisseurs. Waouh, quelle année!
Mais une année passionnante, en fait. C'est exactement, c'est absolument passionnant.
Mais je me posais la question, donc effectivement, je me souviens, il y avait un mot de Martine Aubry hein, qui disait, suite à donc la nomination, qui disait faire rayonner le fleuron de la technologie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu comment ça se répercute aussi pour Eura Technologies, le faire rayonner au-delà?
En fait, Eura Technologies, effectivement, mériterait d'être plus connue. C'est que les gens sont toujours étonnés parfois de ne pas connaître un écosystème qui justement a été reconnu comme le principal de France. Donc c'est que c'est étonnant. Et donc il s'agit de contrecarrer l'esprit nordiste de départ qui était vivons heureux, vivons cachés, qui va assez mal avec la tech parce que justement il faut rayonner et que quand l'incubateur rayonne, ça fait rayonner ses startups. Et donc, effectivement, on a tout intérêt à faire parler de nous, faire parler de nos startups. C'est vraiment embarqué dans notre écosystème.
Très bien. Et bon, j'ai une question aussi, c'est par rapport à votre parcours. Vous êtes né dans quel pays? Vous êtes né où? Et puis vos parents, vous avez grandi dans quel environnement?
Donc moi, je suis née à Moscou en Russie, en fait d'une mère russo-ukrainienne.
D'accord.
Donc je passais mes vacances en Ukraine, dans le Donbass, et ensuite donc on est parti vivre au Tchad pendant 7 ans avec mon père qui était d'origine tchadienne. En fait, ils s'étaient rencontrés à Moscou pendant qu'ils faisaient leurs études. Donc à l'époque, l'URSS accordait des bourses aux étudiants africains méritants, et donc ils partaient là-bas. Et donc ensuite, donc on a vécu aux 7 ans au Tchad, où j'ai fait une grande partie de ma scolarité. Et en fait, on est arrivé en France suite à un coup d'État en 90 qui avait eu lieu au Tchad, qui avait vu donc la chute d'Hissène Habré et l'arrivée d'Idriss Déby. Et donc j'ai suivi ensuite ma scolarité en France avec l'intégration, le SCP, et donc un parcours non linéaire.
Ah, génial. Non, mais c'est génial parce que je l'ai lu, effectivement, mais je voulais comprendre aussi comment ce parcours a façonné ta vision du leadership, du management, qui s'est répercuté dans ta carrière, que ce soit chez Danone et ensuite aujourd'hui à Eura Technologies.
Alors, je suis pas sûre que ça soit ce parcours-là qui ait façonné ma vision du management. Je pense que c'est plus le fait d'avoir tenté l'aventure entrepreneuriale, parce qu'au final, quand j'ai pris mes postes dans des entreprises traditionnelles comme Danone et Pernod Ricard, c'est que j'ai toujours cherché à être sur des sujets plutôt innovants. Mais c'est aussi parce que c'est là où on laisse une place. Quand on rentre pas 100% dans tous les cases et quand il faut trouver une place, et donc c'est là où aujourd'hui c'est ce qui est le plus couru, l'innovation, mais c'était moins le cas quand j'ai commencé à travailler. Et ensuite, j'ai envie de dire que l'expérience entrepreneuriale, elle a été très marquante sur mon mode de management parce que quand je suis donc j'ai monté cette boîte pendant 3 ans, ça veut dire j'ai généré mon chiffre d'affaires. Celui-là, il m'a permis de me payer. Et donc, à la fois, ça m'a donné vraiment confiance en moi. Et donc, quand je suis redevenue salariée, c'est que, on a fait ses preuves pour soi-même. Donc, on peut plus dévier ou se faire trop remettre en question parce qu'il y a ce côté achievement qu'on peut plus vous enlever. Et puis, en même temps, j'avais compris aussi à quel point c'était confortable d'être salariée. Et donc, au final, quand je suis redevenue salariée, j'étais plus quelqu'un qui râlait. J'ai vraiment travaillé comme si c'était ma boîte à chaque fois. Et donc, au final, c'est là où j'ai été le plus promue et ma carrière a pu décoller parce que je me suis dit que c'était plus intéressant, plus motivant d'en faire plus que moins. Et donc aujourd'hui, c'est ça qui influe sur mon style de management. Ça veut dire que ce que j'essaye de faire pour mon équipe, c'est fixer un cadre, mais derrière, laisser aux gens la possibilité vraiment d'entreprendre dans leur travail et d'être super en responsabilité et d'en prendre les crédits comme les risques. Ça n'existe pas d'entreprendre sans risque. Donc être au devant de la scène, porter ses projets et d'avoir le plus d'autonomie possible une fois qu'on a fixé un cadre qui correspond au cadre global fixé avec les actionnaires, bien évidemment. Mais donc, j'ai envie de dire, c'est plutôt ça qui a fixé le cadre pour moi. Cette expérience entrepreneuriale, là, je pense, c'était déterminante.
Ah, génial. Et donc, d'être dans cette dynamique, cette logique de développer l'état d'esprit entrepreneurial à la fois pour les équipes. Non, mais très bien.
C'est très intéressant ce que vous dites parce que c'est une vraie leçon. Alors, je trouve ça précurseur de laisser aussi ces salariés qui ont eu une expérience entrepreneuriale. Et donc, c'est aussi la preuve que quand on a eu une expérience entrepreneuriale, quand on a été indépendant, on peut se réintégrer une entreprise, un projet d'entreprise, une équipe, un collaboratif et co-créer ensemble. Donc ça, c'est une belle leçon parce qu'on entend beaucoup d'entreprises françaises qui ont peur de ces indépendants, de ces entrepreneurs, qui ont peur de les réintégrer en entreprise. Donc pour moi, ça, c'est vraiment un beau message. Et ce qui est précurseur, c'est que vous, en fait, puisque vous l'avez vécu, vous allez leur donner le champ des possibles en matière de créativité ou d'innovation. Vous allez leur laisser une place, c'est-à-dire qu'il y a le cadre du travail, il y a leur mission, la feuille de mission. Mais s'ils ont envie d'être force d'initiative et de créer, eh ben vous leur laissez cette place. Ça, c'est important dans notre société.
Oui, et effectivement, à l'époque, quand j'avais décidé d'arrêter mon entreprise, de la revendre et moi de redevenir salariée, j'avais eu beaucoup de mal à retrouver effectivement un poste. Et ceux qui m'avaient fait confiance, c'était à l'époque Frédéric Jousset, donc de Webhelp, qui lui, au contraire, cherchait plutôt, il avait constitué une équipe avec essentiellement d'anciens entrepreneurs.
Ah, génial.
Et c'est vrai que je suis pour la considération de la fluidité. Moi, j'ai travaillé dans plein de boîtes de tailles différentes. J'ai été entrepreneur salarié. En fait, une vie professionnelle, c'est quand même assez long. Je pense qu'on peut s'essayer dans différents univers. Et je trouve que c'est tout aussi louable de rester dans un même univers parce que tout change autour de soi. Et ça reste une performance de ne pas bouger d'entreprise. Mais c'est aussi très intéressant de venir dans une entreprise avec un vécu de plein d'étapes différentes. Je pense que ce qui compte, c'est vraiment d'avoir ces visions. Moi, je suis très contente au sein de RA Technologies d'avoir à la fois des gens qui ont été là depuis 15 ans. On les a célébrés il y a très peu de temps parce que c'est le fil conducteur. Alors, ils disent, on en a marre d'être les monsieur FAQ, mais voilà. En fait, on a besoin de ce squelette dans une entreprise. Mais à la fois, c'est hyper important d'avoir des gens qui viennent de plein d'horizons différents avec beaucoup d'expérience parce que, en plus, on travaille avec une matière, les entrepreneurs, ils viennent de tout milieu, enfin, et on s'attache à ce qu'ils viennent de tout milieu, de tous horizons. Donc, faut être capable de leur parler avec plein de registres différents. Et je fais peut-être un petit parallèle avec la cybersécurité. Parce que la cybersécurité, on a des assaillants qui viennent de tout pays, de tout horizon. En fait, si on a des gens qui répondent, qui sont dans le même moule, on va pas réussir. Et donc, en fait, pour essayer de lutter face aux risques cyber, on s'attache sur les startups qu'on accompagne à justement essayer d'attirer la plus grande diversité possible parce que c'est à la fois dans les équipes, dans les solutions qui font une grande diversité pour être capable de faire face à une menace qui est de plus en plus diverse, de plus en plus rapide. On va pas le faire avec des profils standardisés.
Oui, on le voit bien hein, parce qu'aujourd'hui, la cybersécurité, on peut pas faire. Il faut faire face. Il faut se donner les moyens aussi avec les différentes équipes pour vraiment répondre en même de répondre au niveau du risque. Tout à fait. Moi, je voulais qu'on revienne un petit peu sur cette expérience de 3 ans. De cette entreprise, je voulais comprendre un peu comment ça s'est passé, les clients que vous aviez et l'activité, comment ça s'est passé exactement.
Alors moi, j'avais lancé donc Solution Apart, qui était une plateforme d'intermédiation entre particuliers et architectes d'intérieur. En fait, avec ma vision marketing, ce que j'avais le vraiment réussi à faire. Alors, il faut se projeter, hein, c'était en 2008. Mm-hmm. Donc, ce que j'avais vraiment réussi à faire, c'était un très beau référencement par les images. Et c'était, j'étais la première boîte à avoir réussi vraiment dans cet univers, ce référencement par les images qui avait créé une machine à lead. Et ce qui m'avait permis ensuite de travailler en marketing B2B sur vraiment de la génération de prospects et de funnels. Et ce qui était intéressant pour moi dans cette entreprise, c'est, moi qui étais une professionnelle du marketing, d'étendre mon champ de compétences, de partir sur vraiment toutes les fonctions, d'aller faire rayonner la boîte, conquérir les clients. Et voilà. Et donc, à l'époque, j'avais été accompagnée par une structure. Alors, c'était pas aussi... Je pense que c'était pas autant le NEC le plus ultra que ce qu'on fait aujourd'hui sur la technologie, mais c'était déjà très aidant. Mmh. Et je crois pas qu'on puisse vraiment... Quand on crée une boîte, on peut faire énormément d'erreurs. Ce à quoi sert un incubateur, une structure d'accompagnement, c'est aussi faire gagner du temps, mettre sur les bons tracks, bénéficier de conseils d'experts, et ça permet d'aller plus vite. Pour vous dire, moi, si ça avait été à refaire, je n'aurais pas pris le même business model que celui que j'aurais choisi. Ça veut dire que typiquement, je pense que quelques conseils d'experts m'auraient aidé à mieux ajuster. En tout cas, j'aurais pas pris ce business model-là. Donc après, on n'a jamais vraiment de regrets, mais je vois bien à quoi servent les structures d'accompagnement comme la nôtre.
Alors, vous êtes à Lille, hein, c'est Eura Technologie Lille. Est-ce que très facilement vous recevez des membres de notre gouvernement, des ministres délégués, des détachés du gouvernement qui viennent vous voir jusqu'à Lille parce qu'on est à une heure de Paris en TGV, et aussi en termes de mentorat de vos startups, est-ce qu'il y a des grands mentors parisiens qui viennent naturellement et très facilement chez Eura Technologie pour mentorer vos startups?
Alors oui, absolument. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que au-delà de nos ministres, on a aussi beaucoup de startups internationales qui viennent. Ça veut dire que finalement, vu de France, c'est à Lille. Vu de l'international, c'est la France tout court.
Oui.
Voilà. Et en fait, pour vous donner un exemple, on a lancé une offre de Start Selling in France, c'est-à-dire vraiment une offre pour les startups à l'international qui ont déjà réussi sur leur marché et qui maintenant, et parce que c'est intrinsèque dans une startup, veulent se développer à l'international et envisagent le marché français. Typiquement, le marché français aussi, enfin, il y a une réputation à l'international, c'est compliqué, comment il faut faire, etc. Et nous, on a développé un programme hybride de 2 mois où, finalement, on adapte leur pitch au marché français, on leur prépare des rendez-vous, donc B2B, pour valider si leur produit a bien un intérêt sur le marché français. Et donc là, notre dernière promo, donc on avait 3 startups indiennes. Une start-up portugaise, une start-up polonaise. Donc, ce que je veux dire, c'est que, vu de l'international, on est surtout une porte d'entrée pour le marché français. Et donc, je pense que c'est notre force. Après, c'est qu'on est une belle étape pour beaucoup de délégations internationales quand elles visitent la France. Donc là, il y aura Vivatech bientôt. Généralement, l'année dernière, on avait une délégation indienne, qui a beaucoup de relations avec l'Inde, délégation du Maryland. Donc on a pas mal de relations comme celle-là. Et puis nous avons aussi les grands salons internationaux comme le FIC, donc le InCyber, Forum InCyber, qui est spécialiste de la cybersécurité, où donc là, effectivement, la semaine dernière où ce salon se tenait à Lille, on a eu les visites d'à peu près de Marina Ferrari, la secrétaire d'État au numérique, et de bon nombre de personnalités politiques et économiques du pays.
Bravo, bravo, bravo.
De faire rayonner la France, hein, finalement.
Oui,
oui, c'est... moi, je voulais qu'on parle maintenant de rôle modèle. Est-ce que vous vous considérez comme une rôle modèle ou c'est aujourd'hui?
Alors, je pense que clairement, j'arrive pas à me dire ça. J'arrive pas à me dire ça, mais pour autant, je sais d'expérience passée que ça a pu être le cas. C'est-à-dire que je me souviens très bien quand j'étais quand j'ai été promue directrice marketing au sein de Webhelp, et on avait on avait 8000 employés à l'époque au Maroc, et je me souviens d'un voyage là-bas où il y a plein de téléconseillères qui s'étaient venues vers moi pendant une soirée en me prenant les mains, en disant « Ah, mais on est tellement fiers !» Et enfin, voilà, je me dis « Ah oui, quand même, ma promotion a bien plus de sens que ma propre joie. » Et au sein de Comexposium, quand j'avais été promue directrice générale, j'avais eu aussi, avec moins d'effusion, mais j'avais eu énormément de témoignages très touchés, très émus. Donc, je sais que ça a du sens. Enfin, je le ressens pas dans mon quotidien, mais je sais que ça a du sens pour des personnes et j'en suis très heureuse.
Eh ben, merci. Merci. Est-ce que, Andrea, tu as encore des questions?
Ben, moi, je voulais aussi, j'avais des questions, surtout par rapport au, on parle beaucoup de femmes dans la tech. Donc, je voulais faire un lien avec Era Technologies aussi. Aujourd'hui, comment ça se passe en termes de recrutement de startups qui doivent adhérer? Est-ce que on a des femmes qui sont présentes, et comment ça se passe, les accompagnements en termes de parité?
Bah, ça se passe pas très bien, la parité dans la tech. Ça, je vais pas vous l'apprendre. On le sait, au niveau mondial, il y a que 2% des fonds qui sont levés par des femmes. Donc, c'est juste, le chiffre est tellement spectaculaire que j'ai toujours du mal à y croire. Globalement, nous, donc, les startups, les femmes fondatrices ou cofondatrices, c'est entre 15 et 35% selon les promotions. Après, voilà, sur la dernière promotion de start-up qu'on a accueillie, on en accueille deux chaque année. C'était 35%, mais ça cache, enfin, c'est très disparate. Ça veut dire que sur une verticale de tech pour le retail, e-commerce, on va avoir énormément de femmes, et puis beaucoup moins sur la track robotique industrie. Donc, voilà, c'est à la fois sans surprise, mais à la fois, moi, il me tient à cœur, hein, vraiment, particulièrement de faire avancer ce sujet. La chose que nous on réalise, c'est on essaie de veiller à la parité des jurys.
D'accord.
C'est déjà un point d'importance, et puis aussi tout simplement de se dire au moment des jurys qu'on souhaite une parité. C'est déjà se le dire tout simplement. Après, je vous cache pas que c'est pas simple, que il y a aussi évidemment un problème de flux. Ben, effectivement, quelles études font les femmes? Est-ce qu'elles ont envie d'aller vers l'entrepreneuriat? Donc voilà. Mais je pense que le plus important sur ces sujets, c'est que chacun prenne sa part. Voilà, et que chacun prenne ses responsabilités et fasse ce qui est en son pouvoir de faire. Donc nous, chez Era Technologies, notre pouvoir très clairement, c'est de se dire. On travaille nos jurys, parce que ça c'est concret, c'est maintenant, c'est au moment des promos, et puis c'est aussi tout ce qu'on peut faire pour faire découvrir l'univers de la tech. Donc par exemple, enfin, je donne deux actions. Il y en a une, c'est que on a des cours de coding et de robotique pour les
très
enfants
bien.
Donc il y a déjà 8000 enfants qui ont suivi ce
parti
cours.
De quel âge?
Et c'est à partir de 7 ans.
D'accord.
Et donc là, pour le coup, on a vraiment moitié fille, moitié garçon.
Ah, c'est super.
Voilà, après, dans la track robotique, c'est pas du tout ça, mais, mais voilà, à 7 ans, 8 ans, jusqu'à 14 ans, voilà, on arrive sans problème à la parité, mais ça permet d'ouvrir le champ des possibles. Ça veut dire, c'est vraiment, parce qu'en plus, c'est parfois que les enfants, parfois c'est les enfants avec les parents, et on sait que 66% des garçons sont incités par leurs parents à faire des études scientifiques.
C'est ça, c'est
mais seulement 40%
des filles. Pour des filles.
Donc voilà, quand je dis chacun doit prendre ses responsabilités en tant que parent, chacun doit prendre ses responsabilités.
Oui, il y a un travail à faire depuis l'éducation, la famille et puis après la formation.
Voilà, exactement. Et donc ces cours de coding sont possibles pour les parents comme pour les enfants. Et ensuite la deuxième action qu'on a, c'est les stages. Et donc, effectivement, les stages de troisième, là, cette année, pour la première fois, les stages de seconde, bah, c'est de dire, ben voilà, les lycéennes, venez découvrir ce qu'on fait. Donc, on ouvre aussi, enfin, il y a des initiatives comme Numérique.L en région. Donc là, très récemment, on a reçu 500 jeunes femmes, 500 collégiennes, qui sont venues vraiment de toute la région Hauts-de-France, d'Arras, de Dunkerque. Donc, en plus, elles ont fait le choix autonome, de se débrouiller, d'aller prendre un train, un bus, venir et pour découvrir les métiers de la tech. Et donc ça, typiquement, c'est super parce que après, quand on leur parle, on voit qu'elles sont enthousiastes, qu'elles ont envie. Déjà, elles ont fait un premier petit effort.
Oui, il y a un engagement.
Il y a un engagement. Et puis, elles ont rencontré des femmes entrepreneurs. On a essayé de vraiment leur donner envie de plein de métiers de la tech, dont les plus techniques.
Oui, on en parle beaucoup, on veut voir aussi d'autres rôles modèles, d'autres femmes, et comme ça, ça inspire d'autres jeunes.
Moi, j'ai entendu que vous aviez un pôle cyber sécurité. On parle beaucoup de la tech, hein, c'est Aura Technologies. Est-ce qu'il y a un pôle comme la cyber, un pôle IA?
Alors, l'IA, on l'envisage en transversal, dans le sens où, effectivement, il y a, je pense que aucune start-up de la technologie qui peut se dire qu'elle n'est pas concernée par l'IA. Donc, en fait, ça, j'ai été saisie, hein, parce que quand j'étais passée dans tous les bureaux, on a plus de 200 start-up résidentes, enfin, qui sont vraiment en location de bureaux, donc qui sont déjà très implantées. J'étais passée leur souhaiter la bonne année, ils avaient tous en projet une nouvelle version intégrant plus d'IA. Donc, clairement, c'est dans leur tablette. On est justement en train de regarder en termes de roadmap comment est-ce qu'on peut faire pour les aider à aller plus vite sur leur projet. Et puis, nous, ce qu'on fait aussi, c'est proposer aux managers d'arriver, enfin, de monter en compétences. Donc, on a lancé une formation avec l'ACATO, qui est l'Université catholique de Lille. Et donc, c'est une formation à l'intelligence artificielle pour les professionnels. Et c'est vrai que pour les professionnels et les entrepreneurs, parce qu'on a aussi beaucoup de start-up qui ont participé à la première session qui a eu lieu en janvier.
D'accord. Donc, vous êtes sur tous les sujets. Et oui, l'IA en transverse, évidemment.
L'IA, c'est vraiment, personne ne peut se dire que ça ne le concerne pas. Et en plus, au-delà de ça, c'est aussi intéressant en termes d'accompagnement parce qu'on voit que nous, dans nos méthodes, dans notre syllabus, dans la manière dont on accompagne, on a par exemple des keynotes, donc c'est vraiment des formats conférences. On a des formats ateliers où on les fait travailler ensemble. Et ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est que ça crée des formats pair à pair. C'est de l'apprentissage pair à pair parce que finalement, les plus aguerris, c'est finalement les plus ceux qui sont curieux, qui se tiennent au courant, qui ont envie d'apprendre aux autres. Et donc, on assiste vraiment à ce côté pair à pair qui est super intéressant et qui va certainement nous inspirer pour pas mal d'apprentissage.
Et donc, les startups qui sont accompagnées, c'est quoi leur activité le plus souvent? Donc, ça va être des sujets tech, cybersécurité, IA.
Oui, en fait, nous, on a les verticales qu'on gère chez Aura Technologies sont très liées à l'histoire des territoires. Ça veut dire que, effectivement, comme on est implanté, on a 5 sites dans les Hauts-de-France. Par exemple, on va être très fort sur tout ce qui est retail, parce que c'est la région où sont nés les Décathlon, les Auchan, etc. Donc, toute la tech pour le retail, on va être effectivement très fort. On va avoir une verticale industrie. Parce que, effectivement, c'est une région aussi qui se développe énormément sur cette partie industrielle, avec toutes les gigafactories qui s'implantent à Dunkerque et ailleurs dans la région. Nous sommes aussi, donc, cybersécurité, vous en avez parlé, c'est une terre de cyber, avec de belles pépites comme Advance, Vade, et donc beaucoup qui sont en train de naître actuellement. Et puis, par exemple, Lille, c'est une des plus grandes villes universitaires de France et on a une verticale EdTech, RH Tech, donc pour de la tech qui vient bouleverser les méthodes d'éducation et d'apprentissage. Et enfin, une verticale FinTech, donc vraiment sur la finance avec une grande partie de nos actionnaires aussi qui font des banques.
Oui, sachant qu'à Lille, on a beaucoup de banques et d'institutions financières.
Exactement. Et donc, voilà, les verticales qu'on a choisies chez Aura Technologies sont très liées à ce qui va pouvoir, en termes d'assets, en termes de potentiel, venir accélérer le plus vite possible les business. Voilà. Et donc, aujourd'hui, quand on est une start-up qui veut proposer de la tech pour le retail, même si on est à Montpellier, eh ben, il y en a qui viennent s'implanter chez nous parce que ben, on crée des ponts plus facilement pour leur démarrage business. En fait, nous, on est ouvert à tout porteur de projet, qu'il soit international, qu'il soit français. En fait, la seule condition pour bénéficier de cet accompagnement gratuit, c'est avoir envie d'implanter son entreprise dans les Hauts-de-France.
D'accord. Une condition intéressante. Comme ça aussi, ça apporte aussi à tout ce qui est métier ou opportunité dans la région.
Exactement. Et on bénéficie en venant s'implanter dans ce territoire. En fait, il y a aussi énormément d'avantages parce que voilà, on bénéficie d'une qualité prix des recrutements très intéressant.
Oui.
Ce qui n'est pas Absolument. Neutre dans un monde tech où il faut des développeurs, voilà. Donc c'est une région. Donc je vous disais une ville universitaire, donc beaucoup de talents et ça compte pour avancer vite parce qu'on sait que voilà, c'est plus de 70% des entreprises du numérique qui disent avoir du mal avec leur recrutement. Donc c'est le sujet des RH n'est pas neutre.
Très bien. Quel message, je dirais, pour conclure, hein, mais quel message pour des jeunes qui veulent entreprendre ou pour des jeunes qui mènent une carrière en entreprise, hein, parce que Koussé, quand on voit ce parcours, ce beau parcours, je trouve ça absolument génial. Et quel message pour des jeunes qui se lancent, tout simplement?
Oui, je pense que se lancer, c'est se lancer accompagné. Ça veut dire que voilà, il faut. C'est une belle chance d'être dans un pays avec de belles structures et nous ne sommes pas les seuls, voilà, pour les aider à accélérer. Je pense qu'au niveau personnel, et je l'ai vécu, c'est une aventure incroyable où on apprend beaucoup, on se développe énormément. Voilà, il faut bien sûr mesurer son risque, mais voilà, c'est en l'envie d'entreprendre vient avec. Et puis, rien n'est définitif. Ça veut dire, ben, moi, je suis la preuve vivante qu'on peut entreprendre, oui. Redevenir salarié. Et puis, rien ne... Qui sais-je ce que je ferai plus tard? Donc, voilà, il faut envisager les choses, je pense, dans une vraie fluidité et rester généreux dans son parcours. Ça veut dire que, voilà, ça sera peut-être un moment où les gens vont plutôt vous aider. Puis ensuite, vous en aiderez d'autres. Donc, il y a une vraie fluidité, une vraie générosité à avoir dans ce parcours-là.
Très bien. Et merci beaucoup.
Merci en tout cas de nous avoir accordé cette interview. C'était vraiment très, très riche. Merci mille fois, Koussé.
Merci beaucoup. Et j'en profite pour dire merci aussi à Juliette qui nous écoute et qui s'est organisée pour qu'on trouve une date pour échanger. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Juliette.
Merci, Koussé, et à bientôt chez Eura Technologies.
Oui,
j'espère bien vous recevoir chez Eura Technologies.